your faith beams in my dreams. Spite of all I do, your face beams in my dreams. Spite of all I do, seems to bring hide your heart from sight. Lock your dreams at night. It could happen to you. Don't count stars, or you might stumble. Someone drops a sigh, and down you tumble. Keep an eye on spring. Run when church bells ring. It could happen. All I did was wonder how your arms could be, and then it happened.
Radio Pleine Lune, 93.8 MHz sur Radio Zone. Dans quelques instants, notre débat, les femmes antinucléaires. Certaines sont déjà parmi nous dans le studio, certaines errent encore dans les rues, dans les campagnes, complètement perdues. Alors nous espérons qu'elles arriveront. En tout cas, à 20h précise, notre débat commence.
Mine would be worn out, I do believe. One bouquet, I'm swept away. Whatever you propose, I'm too far gone to see beyond my nose. So I found you. Where do we go from here? I really don't care, my dear, as long as I'm close to you. So I need you. Maybe I'll have the blues, but even if I could choose, I'd still have to see it through. I'm the kind with a one-track heart. Once I start, I go on till every dream is gone. What can I say? What can I say?
I need you. Live for your smile and touch. But if you can't give that much, I'm more than enough for two. So I love you, love you, love you, love you, love you. That's all I was born to do.
Radio Pleine Lune 93.8 MHz, vous êtes à l'écoute de Onde Femmes. Nous allons bientôt commencer le débat sur l'antinucléaire, c'est-à-dire nous avons ici en studio des femmes antinucléaires qui nous parleront de la votation du 23 septembre et aussi nous parlerons d'elles, comment elles sont devenues antinucléaires.
Radio Pleine Lune 93.8 MHz sur Radio Zone. Ce soir dans Cause Toujours, tu m'intéresses, les femmes antinucléaires. Alors j'ai avec moi Monique Bauer-Lagier, ancienne députée libérale au Conseil des États en Suisse, et Anne-Cécile Reinmann, membre du groupe Contratome. Son nom indique bien quel est l'objectif de ce groupe. Alors, ensemble, j'avais envie, donc elles ont, j'oublie aussi de dire que Monique Bauer-Lagier fait partie actuellement du groupe L'Avenir est notre affaire, groupe de femmes anti-nucléaire. Donc, j'ai réuni ce soir des femmes anti-nucléaires et j'avais envie un peu, à l'occasion de ce 23 septembre, une occasion de dire trois fois oui, de faire un peu l'histoire, notre propre histoire, comment finalement on en est devenu anti-nucléaire à travers des trajectoires, des vies personnelles, des colorations politiques très différentes, des expériences différentes. Alors, quelles ont été, Monique, pour vous, l'expérience qui a, à partir de laquelle vous êtes dit, ou quelle est, à partir de quoi vous pouvez vous dire aujourd'hui, je suis anti-nucléaire, je conseille et je vais voter pour sortir du nucléaire?
Eh bien, je suis femme de radiologue. Et dans ma famille, il y a plusieurs médecins. J'ai une fille, un gendre, mon frère était aussi médecin. Mais comme femme de radiologue, j'ai entendu parler de ces vieux radiologues dont on avait dû couper les doigts parce qu'ils ne se protégeaient pas assez de la radioactivité, de ces techniciens en radiologie, de ces techniciennes en radiologie qui étaient stériles parce que à cette époque-là, on ne se protégeait pas suffisamment. Je parle du début de mon mariage, il y a donc bien longtemps, 45 ans, n'est-ce pas? Et j'ai entendu parler de cette génération-là qui avait souffert dans sa chair de la radioactivité. Par la suite, donc, lorsque je me suis engagée en politique à partir de 1973, j'ai eu un mandat au Grand Conseil de Genève et à partir de 1975 et pendant 12 ans, j'ai été au Parlement au niveau national, d'abord au Conseil national, ensuite au Conseil des États. Je n'ai cessé d'être préoccupée par le développement de l'énergie nucléaire. Il faut dire que j'avais fait partie, par exemple, de la Fédération des femmes protestantes, également de la Fédération des consommatrices, qui étaient des femmes qui militaient véritablement déjà contre le nucléaire. Elles pensaient que face aux générations futures, cette énergie est inacceptable. Elle hypothèque lourdement l'avenir de nos enfants. Quand je suis entrée dans la politique, on parlait beaucoup de Verbois. C'était en 1973, on parlait de construire Verbois, d'accorder certaines autorisations immédiatement au niveau cantonal d'abord et ensuite au niveau national. Je suis intervenue concernant les économies d'énergie, concernant Crémalville. Je suis intervenue concernant Crémalville et les dangers qu'elle pouvait faire courir aux populations avoisinantes déjà dans les années 76-77. J'ai interpellé le gouvernement à ce sujet. Je n'ai pas préparé seule mon intervention. Il y avait un certain nombre de professeurs d'université et de physiciens du CERN qui l'avaient préparé avec moi. On a répondu, bien entendu, que tout allait très bien, qu'il y aurait un accident tous les 10 000 ans, n'est-ce pas? Alors qu'on sait en fait que c'est une suite, c'est un échec total au niveau scientifique et au niveau économique et que ce surgénérateur n'a fonctionné que pendant 6 mois en tout et pour toutes, qu'il y a continuellement des pannes. J'ai fait partie de la commission atomique également de l'Église nationale protestante de Genève, toujours dans la perspective du vote sur Verbois. Des membres du consistoire de l'Église nationale protestante qui est en quelque sorte le synode et qui réunit des délégués de toutes les paroisses. Des membres de ce consistoire avaient demandé qu'une commission fût formée pour étudier les risques de l'énergie nucléaire. On m'a demandé d'en faire partie avec des théologiens, avec des scientifiques, et nous avons procédé à de nombreuses auditions. Et sachez-le, les conclusions de cette commission ont été que l'énergie nucléaire n'est pas acceptable au niveau éthique. Elle fait courir de trop grands dangers aux générations qui viennent. Il faut abandonner l'énergie nucléaire. Et chose plus étonnante encore, ce rapport a été repris par le Conseil œcuménique des Églises dans une de ces séances internationales et repris avec ces mêmes recommandations. Par la suite, étant à Berne, j'ai fait partie de la commission atomique. Vous savez que nous avions dû revoir, il fallait revoir la loi atomique et j'ai participé à des auditions innombrables de personnalités scientifiques venues même de l'étranger. J'ai également fait des visites. Je me souviens par exemple d'une certaine visite à Assé, qui sont les salines les plus profondes d'Europe, au nord-est de l'Allemagne. Et là, on entassait, déjà à l'époque, ça fait je pense 12 ans au moins, on entassait les fûts radioactifs, des fûts de déchets radioactifs, pardon, dans des mines de sel qui comptent jusqu'à 60 mètres de profondeur. On voyait ces fûts accumulés là et on nous assurait que comme il s'agissait de mines, ça signifiait que l'humidité jamais depuis des millénaires n'avait pénétré aussi profond dans le sol et donc que les fûts étaient parfaitement à l'abri. Eh bien, quelques mois après notre passage, je parle donc de la commission atomique du Conseil des chambres fédérales, des infiltrations d'eau ont forcé à évacuer dans certaines galeries les fûts de déchets radioactifs parce que, vous le savez, le plutonium pourrait à ce moment-là, si l'eau pénètre dans ces fûts, gagner des cours d'eau qui gagneraient ensuite, qui rejoindraient des lacs et nous boirions de l'eau radioactive. Ce serait extrêmement dangereux. Je n'ai donc cessé d'interpeller le Conseil fédéral également sur ces problèmes, sur le développement des énergies renouvelables, par exemple. J'avais constaté déjà que pour le solaire, par exemple, on a consacré des sommes dérisoires face aux sommes qu'on a consacrées à la recherche nucléaire. Et il y a 15 jours encore, me rendant à Würenlingen, qui est le centre de la recherche énergétique en Suisse, j'ai posé la même question, la question que j'avais posée il y a 12 ou 13 ans, et on m'a dit ceci, oui, pour la recherche nucléaire, on consacre 46% des ressources. Et pour les énergies renouvelables, dont le solaire, la géothermie, l'énergie éolienne, etc., 8% des ressources. Là, donc, voilà.
Vous avez fait de nombreuses interventions. Vous avez, dans toute votre carrière politique, beaucoup insisté sur ce point. Est-ce que vous avez été écouté un peu ?
Entendu, les jeunes générations, oui. Mais malheureusement, les critères économiques à court terme sont en général seuls pris en compte. D'ailleurs, c'est un faux calcul parce que je voudrais tout de même rappeler deux choses. Tout d'abord, qu'il n'y a pas seulement eu de Tchernobyl, il y a eu auparavant Three Mile Island, Harrisburg, l'accident de Harrisburg depuis lequel aux États-Unis on ne construit plus de nouvelles centrales nucléaires. On en a même abandonné qui était en voie de finition. En Allemagne, c'est pareil. D'autre part, il y a donc une sorte de moratoire de fait dans un certain nombre de pays, sauf en France où c'est la fuite en avant dans l'irresponsabilité la plus totale dès lors qu'on ne sait absolument pas que faire des déchets atomiques. Et on va nous renvoyer en Suisse les déchets hautement radioactifs qui sont retraités à La Hague d'ici 2 ans environ. Nous ne savons déjà pas que faire des faiblement et moyennement radioactifs. Qu'allons-nous faire des déchets, par exemple, de plutonium, dont la demi-vie, c'est-à-dire ils perdent la moitié de leur activité, au bout de 24 000 ans. Je voudrais encore dire une dernière chose. C'est possible de vivre sans le nucléaire. Il ne représente que 2 à 3 % au niveau mondial. En Suisse, 8% seulement. En renonçant à gaspiller l'électricité, à l'utiliser pour le chauffage électrique par exemple, ce qui est un véritable gaspillage, ou bien pour chauffer, pour construire des immeubles à air conditionné, c'est possible de renoncer au nucléaire. 8%, c'est peu de choses si l'on considère que les économies d'énergie peuvent se monter, selon des rapports officiels, entre 20 et 30%. 3 autres pays déjà l'ont fait avant nous, à savoir l'Autriche, la Suède et l'Italie. C'est possible de vivre sans énergie nucléaire. Elle est trop dangereuse, elle est trop mal maîtrisée.
He said,
Anne-Cécile Reinemann, toi, tu fais partie de Contrato à Genève. Alors toi, quelle est en fait, quelle a été ta démarche, quelle a été ton aventure antinucléaire?
Alors moi, je ne suis pas du tout une intellectuelle. Je comprends rien à la technique. Je pourrais même pas vous dire comment fonctionne une centrale nucléaire. Franchement, j'avoue honnêtement que je comprends rien du tout à tout ça. Mais je suis une intuitive et je suis une amoureuse folle de la vie. Et comme en plus je suis une amoureuse folle et passionnée de la vie. Alors, comme toute personne passionnée, je défends avec passion tout ce que j'aime. Et pour moi, le nucléaire a toujours représenté à cause justement de la radioactivité que toute l'exploitation de cette énergie demande, pour moi, ça a représenté, enfin, intuitivement, j'ai senti que c'était le diable qui se cachait là derrière. Premièrement, la radioactivité, on ne la voit pas. C'est une chose absolument traître parce que là, maintenant, toutes les personnes intéressées au développement de cette énergie nous disent que c'est une énergie propre. Et comment peut-on dire une chose pareille quand on pense qu'elle produit les déchets les plus sales qu'on puisse imaginer? Moi, l'idée que ma génération a mis au point une chose aussi monstrueuse, il me semble que toute personne lucide, toute personne morale, enfin qu'il y ait un peu de moralité, on peut absolument pas accepter une énergie pareille. L'idée de laisser pendant 40 000 ans des déchets derrière nous, je comprends pas comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille. Et franchement, j'ai la honte qui monte au front. Franchement, rien qu'à l'idée que c'est ma génération, c'est à mon époque qu'on a mis au point une chose aussi monstrueuse.
Donc toi, c'est beaucoup par rapport aux déchets que tu te mobilises. Tu penses que vraiment, si le problème des déchets n'étant pas résolu, on ne peut pas admettre ces techniques?
Bien sûr, j'ai l'impression qu'il y a, évidemment, je pressens qu'il y a des tas de risques qui sont liés donc à l'exploitation, déjà. C'est-à-dire que si dans le meilleur des mondes possibles, peut-être qu'une centrale nucléaire peut-être fonctionner sans trop d'accidents. On n'a pas eu énormément d'accidents en Suisse, si ce n'est l'histoire de la centrale de Lucens. Mais l'idée même si on arrivait à garantir ce qu'on ne peut pas garantir, c'est-à-dire une impossibilité de risque à 100%, on ne peut pas la garantir. Même si on arrivait à garantir ça, le fait de devoir laisser ces déchets absolument monstrueux pendant 40 000 ans, je pense que c'est une chose moralement absolument inadmissible. Inadmissible.
Vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à la sécurité?
Oui, je voulais citer Lucens. J'étais au Conseil national quand enfin on a eu le rapport concernant Lucens. On ne l'a obtenu que 10 ans après l'accident. Et naturellement, on a d'abord cherché, comme toujours, à minimiser l'accident. C'était une toute petite centrale, Lucens, c'est vrai, mais une centrale uniquement construite par la Suisse. Donc notre pays qui... quasiment infaillible, n'est-ce pas? Il n'y a qu'en URSS que des choses pareilles arrivent. Notre pays a connu là un échec et depuis ce moment-là, nous utilisons des réacteurs américains, Westinghouse et General Electric, construits donc par des grandes maisons américaines. Et il y a tout de même eu aux États-Unis Harrisburg, qui a été un accident déjà important, pas si important que Tchernobyl, mais important tout de même, et qui a fait qu'en réalité, maintenant, on ne construit plus de nucléaire aux États-Unis. C'est une forme de moratoire. Et puis en Suisse, même si on maîtrise toutes les technologies, n'est-ce pas, comme chacun sait, il y a tout de même eu aussi l'accident de Schweizer-Allais. C'était pas un accident nucléaire, c'était un accident chimique, mais il a été un accident majeur, et je crois qu'il ne faut pas le cacher. Donc, tout être humain...
Il faudrait aussi dire...
On peut avoir une défaillance humaine, n'est-ce pas? Je crois que... Et il faut l'admettre, ça peut arriver à tout le monde.
Il y a eu aussi, il ne faut pas oublier, ce n'est pas non plus dans le domaine du nucléaire, mais l'accident à Seveso, qui était aussi une firme suisse. Donc même, on peut penser que les grosses pollutions qui ont eu lieu en Europe, elles sont dues en partie à des firmes suisses.
C'est vrai.
Go straight past where they're going to put in the freeway. And take a left at what's going to be the new sports center. And keep going until you hit the place where they're thinking of building that drive-in bank. You can't miss it.
and great big signs, and they all say, hallelujah.